Vous êtes sur RTL.
Votre journal maintenant avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
François et Pénélope Fillon au tribunal.
Le couple est renvoyé en correctionnel pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon. Mais au fait, que sont-ils devenus depuis 2 ans? On vous dit tout dans un instant. La méningite, maladie foudroyante mais encore trop méconnue. 1 Français sur 2 pense pouvoir la reconnaître. Ce n'est pas si simple, vous allez l'entendre. Un voyeur en série bientôt jugé à Toulouse. Il matait ses collègues féminines dans les toilettes et sous la douche. Les trains régionaux des Hauts-de-France bientôt ouverts à la concurrence. La SNCF est trop souvent en retard. Et puis une femme arbitre centrale en Ligue 1, c'est la première fois et ce n'est pas trop tôt.
2 fois le temps d'ici 6h30.
Après une matinée pluvieuse à Cabourg dans le Calvados, l'après-midi se passera sous un régime d'averse, d'orage et de vent. Il y est prévu 16 degrés.
RTL Matin.
C'est une maladie qui peut tuer en moins de 24 heures. Et pourtant, la méningite est souvent diagnostiquée trop tard.
En cette journée mondiale de lutte contre la méningite, un sondage révèle la méconnaissance du grand public sur cette pathologie. Assez rare, c'est vrai, mais foudroyante et qui touche principalement les enfants et les adolescents. 1 Français sur 2 pense à tort qu'elle se diagnostique facilement et 40% sont convaincus que ça se soigne sans problème. Certains symptômes sont connus, la fièvre, les maux de tête, la raideur de la nuque. Mais chez les nourrissons, c'est plus compliqué, comme explique le docteur Haas, le chef des urgences pédiatriques du CHU Lanval de Nice.
L'enfant de moins de 1 an n'a pas de raideur de nuque. Si on attend ça, c'est beaucoup trop tardif. Il faut se baser sur d'autres symptômes. L'enfant va être beaucoup moins tonique, beaucoup moins réactif, beaucoup plus pâle. Il mangera moins. Dès qu'on le prend, il va grogner, il va geindre. Il peut y avoir de la fièvre, mais quelquefois, cette fièvre n'est pas très élevée. On peut avoir un petit 38. Ce qui est très important, c'est de comprendre, c'est la modification du comportement. Alors moi, qui suis aux urgences, je ne vais pas dire venez aux urgences systématiquement, mais quelquefois, quand l'enfant vraiment n'est pas bien, que la maman se fie à son instinct, qu'elle vienne aux urgences, c'est pas grave, même si on dit effectivement derrière, c'était peut-être une gastroentérite qui débutait. Mais c'est une infection tellement fulgurante qu'il faut savoir examiner rapidement l'enfant.
Le docteur Haas au micro RTL d'Odile Pouget. Sachez que plus de 540 méningites ont été recensées en 2017. 62 patients en sont morts. 20% ont gardé des séquelles, surdité, insuffisance rénale ou amputation.
Il y aura bien un procès Fillon. François et Pénélope sont renvoyés en correctionnel.
Il s'agit bien sûr des emplois fictifs de Pénélope Fillon. Plus d'1 million d'euros d'argent public auraient ainsi été détournés sur une trentaine d'années. François Fillon sera jugé pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Son épouse pour complicité et recel. Son suppléant est également poursuivi. Retour en pleine lumière donc pour le couple Fillon qui s'est fait très discret ces derniers mois. Bonjour Dominique Tenza.
Bonjour.
Que devient l'ancien candidat à la présidentielle tombé à cause de l'argent?
Et de l'argent, il en gagne aujourd'hui beaucoup. C'est dans la finance qu'a rebondi François Fillon, associé d'un fonds d'investissement depuis 1 an et demi, Tikeo Capital, où l'on se félicite tous les jours d'avoir recruté cet employé modèle au carnet d'adresses extrêmement bien fourni. Sur le site internet de l'entreprise, une courte biographie retraçant ses 36 ans de vie politique jusqu'à sa victoire à la primaire. Pas un mot évidemment sur l'affaire qui lui vaut aujourd'hui d'être renvoyé devant le tribunal. Devenu spécialiste en placement financier, le voilà donc parti aux quatre coins du monde. De temps en temps à Paris aussi, où il peut assouvir sa passion pour les belles cylindrées. Depuis 2 ans, il est l'un des cadres de la Fédération internationale de l'automobile. Il se murmure même qu'il pourrait succéder à l'actuel patron, son ami Jean Todt, en 2021. Rangé de la politique donc, mais pas pour autant hermétique à ce qui se dit de lui. Récemment, des rumeurs sur sa vie privée relayées dans 2 ouvrages l'ont notamment fait bondir. Il n'a pas hésité à contacter les auteurs pour régler ses comptes.
Dominique Tenza du service politique d'RTL. 10 mois de prison avec sursis pour un pompier du Val d'Oise soupçonné d'appartenir au Black Bloc. Il a été interpellé samedi lors de l'acte 23 des Gilets jaunes avec des cocktails Molotov et des feux d'artifice. Il assure que rien ne lui appartenait.
Allez, on en vient à cette histoire à Toulouse. Maintenant, un serial voyeur va être jugé prochainement.
Pendant 3 ans, ce salarié d'Ineo, une filiale d'Engie, a espionné ses collègues féminines aux toilettes et sous la douche. 14 victimes en tout. Le pervers avait pratiqué 2 trous dans le coffre de la chasse d'eau des toilettes et il les avait cachés par un petit morceau de tissu. Un système bien rodé, Patrick Tégéraud.
Tous les matins, tous les midis, tous les soirs, ce cadre d'une filiale d'Engie s'installait dans un petit couloir de service entre les toilettes des hommes et celles des femmes. Il avait troué la cloison. Yasson est l'une des 14 plaignantes.
Au lieu d'être à son travail, il était planqué comme un dégueulasse, en train de regarder les filles se dénuder, être aux toilettes. Enfin, pour nous, c'est affreux. Alors déjà, maintenant, quand on va dans des toilettes ou des vestiaires, on est persuadé qu'on nous observe. Il y en a qui font des cauchemars. C'est abominable. Presque la moitié d'entre nous est sous psychothérapie, juste pour venir travailler. Il y en a d'autres qui ont des problèmes dans leur vie intime. Et il y en a qui veulent démissionner maintenant. C'est pas à nous de partir, ce sont les directeurs qui ont mal agi.
Car très vite, le pervers est identifié, mais la direction le couvre, elle ne veut pas y croire.
On a eu droit aux petits commentaires, personne n'a envie forcément de nous voir à poil, etc. Parce qu'effectivement, on n'est pas toutes des top modèles, mais bon, soit. Pour moi, on a été victimes vraiment de deux crimes. D'abord, du voyeur, et après, de notre hiérarchie, qui d'une, ne nous a pas protégés, de deux, nous a pas cru.
Il aura fallu qu'un policier sérieux prenne en main cette affaire et fasse avouer le cadre obsédé. L'homme a été licencié, les directions de quatre filiales d'Engie ont enfin porté plainte à leur tour et le pervers sera jugé en septembre prochain.
Patrick Tégéro à Toulouse pour RTL. À l'étranger, l'État islamique a revendiqué hier les attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka. 7 personnes seraient impliquées dans ces attaques qui ont fait plus de 360 morts selon un dernier bilan. 360 morts dans des églises et des hôtels de luxe. Dans l'actualité également, ce chiffre qui fait frémir, 1 million d'espèces animales et végétales pourraient être menacées d'extinction, la plupart dans les prochaines décennies. C'est ce qu'indique un projet de rapport de l'ONU sur la biodiversité. Les scientifiques estiment qu'il existe 8 millions d'espèces sur Terre et leur disparition s'accélère.
Ras-le-bol des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Dans les Hauts-de-France, le service ferroviaire s'ouvre à la concurrence.
Le Grand Est et la région PACA ont déjà franchi le pas. Lille lancera demain sa procédure d'appel d'offres. 20% du réseau TER devrait ainsi être confié à un opérateur privé. Un réseau qui transporte plus de 110 000 personnes par jour, Franck Hanson.
Pour les élus nordistes, il ne s'agit pas de faire des économies mais bien d'assurer un meilleur service dans la gestion des trains. Certains TER sont régulièrement une fois sur 4 en retard, avec des lignes mal entretenues. Franck Dersin, le vice-président chargé des transports.
Nous voulons faire mieux avec un seul objectif, c'est faire en sorte que les usagers soient beaucoup mieux traités qu'aujourd'hui. Et donc, on ne cherche pas à tuer la SNCF, on cherche simplement à la piquer légèrement aux fesses, à offrir un meilleur service, parce qu'à côté, il y a des gens qui peuvent vous prendre des parts de marché si vous n'êtes pas bon.
Les associations de voyageurs sont encore réservées quant à cette ouverture à la concurrence. En gare, comme ici à Lille, les usagers aspirent à plus de régularité, mais pas à n'importe quel prix.
Dans le privé, ce serait bien aussi. Ça permettrait d'améliorer pas mal de choses quand il y a des pannes ou bien qu'il y a énormément de retard. Quelquefois, c'est 40 minutes, quelquefois une heure. C'est galère comme là. Aujourd'hui, je m'en vais à Saint-Quentin. Il a fallu faire Lens, Lille, Lille, Saint-Quentin.
Il y a un incident par jour à peu près. Donc éventuellement, oui, alors à la concurrence modérée par contre. Le ferroviaire reste du service public. On n'est pas sûr d'avoir un coût abordable avec une entreprise privée.
Les nouveaux opérateurs pourront conserver le personnel et le matériel SNCF.
Franck Hanson, le correspondant d'RTL dans le Nord. Joli mois de mai pour les retraités qui gagnent entre 1200 et 2000 euros par mois. La hausse de la CSG a été annulée pour eux au 1er janvier et c'est le 9 mai qu'ils devront être remboursés des sommes indûment versées. Cela fait 112 euros pour une pension de 1500 euros. 3,5 millions de foyers sont concernés. Une audience cruciale ce mercredi pour la Syrie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Le tribunal de Strasbourg va trancher entre les trois repreneurs potentiels. Le sidérurgiste britannique British Steel, le fabricant italien d'aciers spéciaux Calvi Networks et le fonds Secufond Industries. Les deux premiers reprendraient l'intégralité des effectifs.
Son nom va rester dans l'histoire du sport. Stéphanie Frappard sera la première femme à arbitrer un match de Ligue 1.
Du moins comme arbitre central. Ce sera le cas dimanche dans le match Amiens-Strasbourg. Stéphanie Frappard a l'habitude d'être une pionnière. Depuis 2014, elle est déjà la seule arbitre femme en Ligue 2. Son arrivée dans l'élite est plutôt bien accueillie par les supporters. Écoutez.
Ah oui, c'est une très bonne chose ouais, pour le football en général. Ouais. Pour la parité, et puis ça va permettre aussi aux joueurs peut-être de prendre sur soi avant d'aller gueuler auprès des arbitres.
Non, les petits bouts de femmes, c'est celles qui ont le plus de caractère. Donner face à des colosses de 1m80-90, au contraire, je pense que ça sera les calmer. Ouais. Il n'y a pas de souci.
Ouais, mais c'est bien, ça change un peu. C'est bien, voilà. Si après elle est sérieuse, voilà, ce sera une bonne chose pour le foot français.
C'est super. Il va y avoir la Coupe du Monde féminine en plus, donc bien, c'est bien. Et puis il y aura peut-être un peu plus de respect, les mecs, ils n'iront pas gueuler comme... Non, mais se plaindre comme si ce serait un mec, je pense pas. Il y aura une façon d'aller voir l'arbitre, je pense.
Moi, je trouve que c'est super bien parce que justement, en fait, il faut qu'il y ait beaucoup plus de mixité, beaucoup plus de parité. De toute façon, ça existe déjà dans d'autres pays, donc je vois pas pourquoi est-ce que ça pourrait pas exister en France. C'est pas en faisant des pas en arrière qu'on avance.
C'est sûr, monsieur, ce n'est pas en faisant des pas en arrière qu'on avance.
C'est compliqué.
Des supporters de foot au micro RTL de Théo Butignol. La 34e journée de Ligue 2, Metz a raté le coche. Les Lorrains espéraient fêter hier soir la remontée en Ligue 1, mais ils ont dû se contenter d'un nul 1 partout face à Grenoble. Il faudra donc attendre au moins jusqu'à vendredi, ce sera contre le Red Star. Et puis, un record chez nos amis anglais. L'attaquant de Southampton, Shane Long, a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. But inscrit après seulement 7 secondes de jeu. On l'appelle Lucky Luke.
C'est pas mal. Merci beaucoup Isabelle. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.